Salut Rudy.
Salut Christophe.
Ça va et toi?
Bien. Voilà, bienvenue pour ce premier podcast Super Physique avec Christophe Cario.
Eh ben, écoute, merci de ton invitation et merci à l'invitation de Super Physique surtout.
Bah, ça fait plaisir. Comme t'as beaucoup de choses à dire, j'ai vu que t'as eu beaucoup de questions sur le forum là. Je sais pas si t'as vu le topic.
Ouais.
Pas mal de questions vachement intéressantes. Donc déjà, en fait, j'aimerais bien me parler de ton nouveau DVD qui vient de sortir.
Alors, ce nouveau DVD, tu veux savoir quoi, Rudy, ce qu'il y a dedans?
Exactement. Alors, si j'achète le DVD, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment progresser? Qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser? Si j'ai bien compris, en fait, je vais pouvoir faire des muscle-up,
ouais,
des planches et compagnie, c'est ça?
Des planches, des pompes à un bras, et puis ben, tout ça dans la lignée en fait de mon travail habituel, c'est-à-dire augmenter ses performances tout en limitant le risque de blessure. Donc, faire des planches ok, faire des muscle-up ok, mais l'idée c'est pas de se retrouver avec un conflit acromio-claviculaire 6 mois plus tard, une tendinite du long biceps, etc. Donc je propose différentes progressions pour pouvoir aider les lecteurs, mais là c'est plus des lecteurs, c'est des visionneurs à performer dans les meilleures conditions possibles selon ma logique de travail, les chaînes musculaires, etc.
Donc on va y retrouver en fait, c'est-à-dire un peu une compilation de tes livres?
Ah non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment à chaque fois des nouvelles choses, des progressions qui n'existent pas forcément par exemple dans musculation athlétique. Moi je suis un chercheur, Rudy, un chercheur de terrain, je me qualifie comme ça, et donc à partir du moment où j'ai sorti musculation athlétique, il y a eu des gens qui m'ont écrit, qui m'ont parlé de leurs difficultés à réaliser certaines choses. Moi-même, il y avait des choses que je souhaitais affiner, des nouveautés à proposer. Et donc, ben, le DVD, c'est aussi un moyen d'aller plus vite que le livre et de maîtriser encore un peu plus le travail que je propose. Voilà.
Donc, pareil, là, tu sors ce DVD. T'as d'autres DVD en cours?
Il y aura 5 autres DVD dans l'année, ouais.
Donc on peut parler des sujets ou pour l'instant c'est top secret?
Ah non, moi j'ai aucun secret. Le prochain DVD qui va sortir courant février, ça sera un travail 100% élastique. Comment soit faire de la préparation physique, soit carrément se muscler rien qu'avec des élastiques. Donc là pareil, je proposerai une approche un peu originale qui utilise la résistance progressive. Par rapport aux élastiques que je propose sur ma boutique, qui sont les mêmes que ceux d'Iron Woody. Il y aura un DVD qui s'appellera Primal Running, qui sera basé entre guillemets sur des gammes d'athlétisme, ma vision de la course à pied et puis un travail de parcours ou de free running. Un petit peu ce que les gens connaissent des Yamakasi, donc ça sera une compilation de tout ça. Alors on n'apprendra pas à faire des doubles saltos arrière d'un immeuble à l'autre, mais
on va pas pouvoir sauter d'immeuble en immeuble.
On apprendra déjà à rouler par terre convenablement, on apprendra à limiter l'impact d'un saut au sol, on apprendra à limiter l'impact de la foulée au sol. Pour pouvoir par la suite, quelques mois plus tard, réaliser des figures peut-être un petit peu plus aériennes, ça c'est sûr. Ensuite, je sais pas si tu as des questions là-dessus, Rudy, hein, on avance.
Non, on avance, vas-y.
Ensuite, il y aura 2 autres DVD qui seront spécifiques au coup de pied. Comme les gens de Super Physique le savent, moi je suis un ancien champion de karaté. Et le problème dans les sports de combat, tout style confondu, c'est qu'en fait, à vouloir améliorer sa souplesse, améliorer ses techniques de jambes, ben on se bousille les genoux et les chevilles et les hanches et la colonne. Donc toujours pareil, je proposerai l'approche qui m'a permis et qui me permet de continuer à performer encore aujourd'hui, à pouvoir faire des beaux coups de pied, des techniques puissantes, etc. Mais sans traumatiser mon corps, voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour de ce qui va sortir.
Donc, il y a un livre, si tu dis en octobre prochain.
Ouais.
Quel va être ce livre?
Tu connais mieux mon actualité. ça sera un livre vraiment sur la préparation mentale. Il y a beaucoup de gens qui me posent régulièrement des questions sur ben moi j'aimerais m'entraîner plus, mais j'ai pas la foi, j'ai pas l'énergie.
J'ai pas le temps.
J'ai pas le temps, je sais pas pourquoi je fais ça, etc. Dernièrement sur mon site, j'avais un peu blogué sur la notion de se donner des objectifs. Donc en fait, le livre partira de ça, c'est-à-dire partira de ce postulat, pourquoi tu fais du sport, pourquoi tu fais de la muscu, bien déterminer les raisons qui te poussent à faire ça, et ensuite ben travailler sur les petites limites que tu vas trouver psychologiquement, voilà, enfin, différentes choses, la peur de l'échec, ce sera un livre à mi-chemin, entre la préparation mentale d'un sportif, une psychologie, disons, classique, et tout ça dans le style que les lecteurs de mes bouquins connaissent déjà, quoi. C'est assez pratique, toujours, voilà.
Tout ça afin de devenir encore un athlète plus complet.
Exactement, ouais, tout à fait. Bah, tu sais, c'est ma quête aujourd'hui. Moi, j'ai réalisé mes rêves de championnite, on va dire, de devenir un champion. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, voilà, c'est de bien vieillir, maintenir mes performances le plus longtemps possible, et puis surtout les partager avec les gens qui, voilà, qui sont un peu ouverts d'esprit.
Donc moi, j'avais la question que tout le monde se pose, hein, en fait. C'est, on a vu là sur les photos là que t'as vachement pris de muscles.
Ouais.
Que t'as explosé, quoi, parce que donc t'avais pris quoi, t'as dit 4 ou 5 kilos de muscles dans l'année, c'est ça?
Ouais, 4 kilos de muscles par rapport à la couverture que tu vois de Sculpter vos abdos, mon livre sur les abdos. Là, je pesais 69 kilos pour cette couverture qui avait été faite en décembre 2009. L'été suivant, c'est-à-dire été 2010, je pesais 73 kilos relativement sec.
Bah, la question, c'est comment t'as fait?
Comment j'ai fait? Eh ben, c'est en grande partie dû au programme de musculation athlétique. Je l'avais déjà dit dans la première interview que tu m'avais consacrée. La première personne qui utilise les programmes de mes bouquins ou de mes DVD, c'est moi. C'est-à-dire que on est souvent un peu perdu dans la somme d'informations qu'on connaît, qu'on maîtrise. Et donc, une des manières que j'ai, moi, d'avancer, c'est de structurer ma pensée sous forme de livre ou de DVD. Et le premier utilisateur de ces livres ou de ces DVD, ben, c'est moi-même. Donc, le programme qui m'a permis de gagner ces 4 kilos, ben, c'est ça. C'est ce qu'on trouve dans le DVD Musculation Athlétique Fondamentale, ce qu'on trouve dans Musculation Athlétique, le livre, et puis beaucoup de travail d'élastique.
C'est-à-dire, en fait, aucune musculation en salle avec charge lourde?
Non, là, j'ai fait quasiment que des barres et que des élastiques pendant 6 mois. Là, cet hiver, pour donner un aperçu un peu de la manière dont je m'entraîne, je suis revenu un petit peu à un travail avec poids et haltères depuis septembre-octobre. Et puis, voilà, je pense que d'ici février, je vais reprendre la même routine que l'année dernière, c'est-à-dire élastique et travail à la barre.
Donc, j'en reviens à une question de... Justement, on enchaîne là-dessus. C'est Augustin N. qui pose la question. Comment concilier un autre sport avec la musculation, en fait? Donc, parce que sur le dernier podcast, je sais pas si tu as écouté avec Gundil.
Oui.
Voilà, on a parlé de pour faire du muscle, des cycles. Donc, on était un peu contre. Et donc, toi, en fait, tu fais plutôt des cycles. Donc, en fait, la question, c'est comment les concilier... Comment tu organises tes cycles, en fait?
D'accord. Déjà, Rudy, ce qui est très important de mentionner, c'est que beaucoup, en fait, de lecteurs de super physique ont pour objectif de construire de la masse musculaire. C'est leur objectif principal. Moi, si tu veux, dans mon approche, c'est pas mon objectif principal. J'ai toujours dit que, si tu veux, que la masse musculaire que je développais, c'était uniquement la cerise sur le gâteau d'un programme qui visait à augmenter mes performances physiques.
Donc un effet secondaire.
Exactement, un effet secondaire très positif. Je me cache pas, j'aime avoir un physique musclé, j'aime avoir un physique athlétique, c'est vraiment pas le problème, mais c'est pas ma priorité principale. Ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est repousser mes propres limites, repousser ce que je sais déjà faire en termes de performance. Et bien souvent, en tout cas ces dernières années, par rapport au programme que j'ai développé, il se trouve que ça m'a donné un gain de masse musculaire. Donc j'en suis très content. Donc ça, c'est très important. Alors effectivement, moi je considère même pour un pratiquant de musculation que la notion de cycle, elle est importante. Pour moi, elle est importante, pas forcément dans une logique unique de faire de la masse musculaire, mais elle est importante dans une logique de faire de la masse musculaire en évitant de se blesser. Parce que le problème de la musculation et le problème justement de toujours réaliser les mêmes cycles de muscu, c'est que tu travailles le muscle toujours de la même manière en fait.
Tu progresses que d'un seul côté quoi, alors qu'il y a tellement de côtés à progresser.
Exactement. Et c'est pour ça en fait que moi même pour quelqu'un qui fait de la musculation et dont le seul objectif si tu veux c'est de construire de la masse ou d'avoir un corps esthétique, je vais quand même lui planifier des changements de cycle, parce que on peut considérer qu'il y a une prise de masse, si tu veux, à court et moyen terme, mais il y a également une prise de masse à plus long terme, c'est-à-dire il y a des adaptations structurelles qui se font, parce que le corps met du temps à récupérer. On sait par exemple que la contraction excentrique, lorsqu'on travaille de cette manière-là, on peut avoir des traces de contraction excentrique au niveau des muscles et des tendons pendant presque 9 à 12 semaines après 6 ou 7 séances de ce type. C'est énorme. Donc ça veut dire, si tu veux, qu'il y a vraiment une nécessité du corps à récupérer à court terme, mais aussi à récupérer à long terme. Et la logique, si tu veux, à long terme, c'est que si tu laisses le corps récupérer, il va pouvoir justement ajouter un petit peu plus de masse. Là-dessus, je voudrais donner un point de vue que j'ai, qui est plus une question ouverte, si tu veux. Ce qui est important aussi de considérer dans la logique de prendre de la masse musculaire comme objectif, c'est que tout le monde, toute personne qui fait de la muscu a déjà observé que c'est très difficile de prendre de la masse. Je veux dire, toi, tu fais de la muscu.
C'est long, quoi. Il faut être patient et puis petit à petit, quoi, ça vient, quoi.
Exactement, ça vient petit à petit. Et ça vient petit à petit pour une bonne raison. C'est parce que le corps, il n'est pas bête. Il a besoin, si tu veux, de s'adapter à une augmentation, si tu veux, de masse musculaire, à une demande d'énergie supplémentaire. Le muscle demande de l'énergie pour se contracter, pour se réparer. Donc le corps, il n'est pas débile, si tu veux. Il ne va pas rajouter de la matière s'il n'est pas capable de l'assumer, en gros. Tu comprends? C'est un petit peu comme... c'est ma théorie, hein. C'est comme si tu étais face à un banquier, le banquier ne va pas te filer des thunes s'il n'est pas sûr que tu pourras le rembourser, quoi. C'est un petit peu, pour moi, la même chose avec la masse musculaire. Et c'est aussi pour ça que je prône le travail en cycle, justement pour apporter une certaine forme de confusion au niveau de la musculature, au niveau des besoins corporels, etc.
Quoi. Donc en fait, quand tu récupères, par exemple, je reprends l'excentrique, tu récupères de tes efforts excentriques, en fait, tu fais un travail complètement différent qui va te permettre de récupérer ce travail excentrique.
Exactement.
Mais qui va te permettre de travailler une autre qualité du muscle, par exemple, qui pourra se développer parce que ça prendra beaucoup moins de ressources.
Exactement.
Musculairement, que ça puisse, par exemple, travailler plus le système nerveux que le muscle ou...
Tout à fait, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, si tu veux, moi, pendant cet automne, pour que les gens aient une vision plus complète de ce dont on parle, tout le travail que j'ai fait de force pure aux agrès, à la barre fixe, c'est assez difficile au niveau des muscles et des tendons. Donc du coup, là, j'ai fait un cycle depuis le mois de septembre, j'étais très axé sur un travail de bodybuilding classique, quoi, tu vois, un travail d'isolation avec une compartimentalisation de séance, etc. De manière à vraiment permettre de faire un travail concentrique, tu vois, qui porte très peu sur le système nerveux et qui me permette justement de récupérer en profondeur, en fait.
Ah, donc, c'est une théorie qui justifie bien, je trouve aussi.
écoute, tu sais, je pense qu'il y a une chose pour laquelle les Américains sont très forts, Rudy, qu'en France, on manque beaucoup de ça. C'est bien, si tu veux, d'avoir des connaissances, de lire beaucoup de choses, mais pour moi, c'est beaucoup de masturbation intellectuelle. Donc, moi, j'ai toujours dit, il y a des choses qui sont toujours intéressantes à apprendre chez les uns, chez les autres. Et le maître mot, c'est l'expérimentation. Donc moi, quand j'entends des choses qui me paraissent cohérentes, je ne dis pas qu'il faut tout essayer, je dis juste qu'il y a des choses qui me paraissent cohérentes, je les teste, je les essaie pendant 15 jours, 3 semaines, et puis je vois comment mon corps réagit, je vois comment il récupère, et puis voilà, en fonction de ça, soit je continue, soit la méthode que j'ai utilisée, je sais qu'elle ne me convient pas, quoi, voilà.
Ouais, donc en fait, c'est exact. Je sais pas si t'as écouté aussi ce week-end, on en parlait avec Aurélien Broussol dans son interview, et justement, ouais. En fait, on en revenait en fait à la même conclusion, en fait, parce que lui a écrit son livre, ça s'appelle La préparation physique moderne.
Oui.
Et donc en fait, il a essayé de mêler en fait tout ce qui était scientifique à tout ce qui était empirisme, en fait, observation sur le terrain.
Oui.
Donc en fait, c'était de dire que exactement ce que tu dis, en fait, c'est que l'observation sur le terrain est au moins aussi importante que les observations scientifiques. Tout le blabla qui fait...
Tu sais, moi, je vais même te dire autre chose. J'ai fait partie j'ai fait partie de ces jeunes, de ces préparateurs physiques qui ont beaucoup lu, qui ont essayé de coller le plus possible à la théorie. Et aujourd'hui, j'en reviens un maximum parce que quand il y a eu le grand débat, je sais pas si tu t'en souviens, peut-être que ça intéressera les internautes. Il y a eu un gros débat pendant des années sur les étirements.
Ouais, j'étais là.
Alors, il fallait plus du tout faire d'étirements avant les séances. C'était de la folie, etc. Mais quand même, pendant presque 15 ans, en athlétisme, Carl Lewis, tu vois, il s'est chauffé en faisant plus d'une heure de stretching statique. Et pourtant, il courait très très vite. Donc, si tu veux, moi, pendant des années, j'ai fait des séances d'étirement statique, des séances de karaté, qui sont pourtant extrêmement explosives. Et j'étais explosif. Donc, oui, il y a des choses qui se vérifient dans le laboratoire, dans la théorie. Mais ce qui, pour moi, est plus important, c'est ce que les gens ressentent sur le terrain, quoi. Ça, c'est la réalité.
Bah, je suis complètement d'accord avec toi.
Parce que, tu vois, je me permets de compléter ce que je te dis. Bien souvent, les chercheurs, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils essaient absolument de faire coller leur recherche à ce qui existe déjà.
Ouais, ils arrangent les choses.
Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'on manipule plus ou moins, si tu veux, la réalité, on essaie de faire coller la réalité. Je reviens sur l'exemple des étirements. Le protocole qui avait été étudié, c'était on prenait une personne, on le faisait s'étirer dans certaines positions, et immédiatement après l'étirement, on lui faisait faire un sprint. Eh bien, aucun athlète au monde, naturellement parlant, ne va s'étirer, se lever et sprinter. Non, tu t'étires, même si tu suis les anciens protocoles, tu te lèves, tu fais quelques talons-fesses, tu fais quelques sauts genoux-poitrine, tu réactives un peu le tonus musculaire et la musculature, et ensuite tu fais ton sprint. Donc si tu veux, tous les protocoles qui sont étudiés, parfois, ils sont...
Loin de la réalité.
Exactement. Et c'est dans ce sens-là que je dis que la science, c'est intéressant, c'est important, mais ça fait pas tout, et certainement pas en matière d'entraînement, quoi. Voilà.
Donc on va continuer avec les questions d'Augustin N. Alors là, j'y connais pas grand chose. Alors il demande ton avis sur les points d'entrée en posturologie.
Les points d'entrée, alors il doit parler des yeux, des pieds.
Voilà, yeux, pieds, l'atlas, les dents.
Ouais.
Et donc qui joue un rôle important au même titre que le principe corps, qui est développé dans son livre Sculpter vos abdos.
Ouais. Alors en fait, ce qui est intéressant dans la question d'Augustin, c'est qu'effectivement, c'est pas, si tu veux, le corps, notamment pour la posture, il utilise des capteurs proprioceptifs. Alors, les oreilles, les yeux, etc., la langue, les pieds, sont en fait des points d'entrée, c'est-à-dire des points sur lesquels le cerveau va collecter de l'information, soit sur la position du corps dans l'espace, soit sur des sensations, soit sur des odeurs, soit sur des feelings, notamment au niveau du pied. On n'a pas du tout les mêmes informations cérébrales lorsqu'on marche pieds nus sur du béton ou lorsqu'on marche sur de l'herbe mouillée, sur de la glace ou sur du sable, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle des points d'entrée. Et c'est la raison pour laquelle, notamment en posturologie, mais aussi en ostéopathie ou en kiné aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à ces fameux points d'entrée parce qu'on s'est aperçu que c'était des facteurs très très importants à ne pas négliger, parce que c'était eux qui influençaient véritablement la posture. On sait aujourd'hui, par exemple, que les bébés, plus ils ont un environnement visuel riche, c'est-à-dire plus on les stimule visuellement à partir de la naissance, et meilleur sera leur développement moteur. Pourquoi ? Parce que le fait de les stimuler visuellement, donc en stimulant ce point d'entrée qui est la vision, on va stimuler en fait des programmes, l'installation de programmes moteurs pour pouvoir venir attraper la main de maman, venir attraper un objet, etc. Et un bébé, par exemple, dont les parents ne s'occupent pas beaucoup ou qui est un petit peu délaissé, tu vois, les bébés qui sont abandonnés à la naissance, etc., dont on ne s'occupe pas énormément, ben, généralement, ce sont des enfants qui ont un développement psychomoteur qui est un peu en retard ou qui peuvent avoir des problèmes moteurs par la suite, c'est-à-dire des schémas moteurs sportifs pas très développés ou des choses comme ça. Donc, il y a des choses très, très importantes. C'est aussi pour ça que dans mon livre « Savoir s'étirer », il y a une fiche qui fait rigoler pas mal de monde sur la mobilisation des yeux. Mais c'est pas pour rien qu'il y a il y a une spécialité aujourd'hui de rééducation de l'œil qu'on appelle l'orthopsie et qui va permettre justement de rééduquer ce point d'entrée qui peut être perturbé chez les gens qui font trop d'ordinateurs, trop de consoles, etc. quoi.
Ah justement, c'est l'avis global que demandait Augustin sur l'orthopsie, car il est en pleine rééducation et constate des effets bénéfiques.
Exactement, c'est ce que je viens de te dire, Rudy. C'est les yeux sont très importants. Si tu passes beaucoup de temps devant l'ordinateur, il y a une fatigue oculaire qui s'installe pour la bonne et simple raison que les yeux sont mobilisés par 6 petits muscles dans le globe oculaire. Et ces 6 petits muscles, ils fonctionnent exactement de la même manière que l'ensemble de ta musculature. Ils ont besoin de break, ils ont besoin d'étirement, ils ont besoin de récupération. Alors, c'est pas le même procédé, tu vois, on va pas décapsuler l'œil pour lui faire un petit massage, mais on peut très bien fermer les yeux, relâcher la tension oculaire, on peut très bien étirer les yeux en les mobilisant dans différentes directions, on peut les muscler aussi, c'est le travail d'orthopsie. Donc, il y a des choses à faire en orthopsie qui sont très intéressantes.
Donc on trouve des détails dans ton livre sur les abdos, c'est ça ? Ou savoir s'étirer ?
Dans savoir s'étirer, on en parle, ouais, effectivement.
On veut des détails là-dessus. Donc après, des questions de Dibi, alors sur le karaté.
Ouais.
Donc, quelles sont d'après toi les aptitudes à développer pour gagner en charisme en compétition Pumskata ?
Les Pumsé.
Ouais, Pumsé, voilà.
Je vois que t'es un grand connaisseur du taekwondo.
Ouais, il connaît rien du tout.
Alors, quels sont les... Oui, alors, pour gagner en charisme, d'abord, la première des choses, c'est faire des compétitions. Parce que si tu es jamais en contact avec un public, si tu es jamais sur une scène, que ce soit un tatami ou autre, tu n'arriveras jamais à gérer, entre guillemets, le stress d'être en présence d'un groupe ou d'être jugé par des gens. Donc, le but, c'est de commencer par faire un maximum de situations dans lesquelles tu vas être sous le feu des projecteurs, entre guillemets. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y avait un petit truc que moi, j'utilisais quand j'étais en compétition, notamment les premières années, et que je faisais des galas ou des compètes devant un public assez large. J'imaginais toujours, en fait, que la salle dans laquelle j'allais me produire, c'était en fait mon salon, et que les gens qui étaient présents, c'était mes invités, en fait. Et ce petit arrangement de la réalité au niveau psychologique, ça m'aidait beaucoup dans le sens que c'est toujours plus facile d'être bien quand tu reçois des gens chez toi, parce que t'es chez toi, c'est toi le maître de cérémonie, que d'être, entre guillemets, une victime passive de ce qui se passe. Donc voilà, c'était un petit arrangement que je faisais avec moi-même. J'essayais de me convaincre de ça. Alors, quand je faisais des trucs à Bercy, c'était pas forcément si évident que ça, quand t'as 16 000 spectateurs qui te regardent. Mais bon, ça m'a souvent aidé d'utiliser cette petite technique psychologique, quoi.
Donc, il a encore d'autres questions, toujours en rapport avec les sports de combat. Alors, comment réveiller son organisme pour obtenir le plus d'explosivité possible avant de monter sur le tatami?
Alors, moi, ce que j'utilisais et ce que je conseille, c'est d'utiliser des contractions statiques de tout le corps, immédiatement suivies par une activation musculaire de type pliométrique. Alors, ça peut être, par exemple, effectuer une série de coups de pied statiques à droite et à gauche, immédiatement suivi d'un travail très explosif sur une cible, ou alors des sauts genoux poitrine ou des choses comme ça. Alors bien évidemment, avant tout ça, faut bien s'échauffer, hein. Mais ça m'aidait bien à avoir énormément d'explosivité juste avant de rentrer sur scène, quoi. Et on perd pas de jus, comme on dit en sport, quoi. Au contraire, on en gagne, on gagne de l'énergie, on gagne du tonus, quoi, pour la performance qu'on doit réaliser.
Ça me fait penser à, je sais pas, c'est l'échauffement russe, je sais pas, c'était sur le site de Cometti à une époque.
Ouais.
Et donc, il disait, juste à rejoindre un peu ça, en fait, que, donc ça rejoignait aussi un peu les étirements, qu'en fait, les étirements statiques n'augmentaient pas vraiment la température du muscle, mais qu'en fait, les contractions statiques suivies de contractions dynamiques, en fait, échauffaient mieux le muscle, le rendaient plus apte à faire justement des...
Absolument.
Des mouvements explosifs.
C'est complètement ça. Je suis entièrement d'accord avec.
J'ai oublié le nom du mec qui avait pondu ça, de l'échauffement russe là, mais c'était ça en fait.
Ouais.
Donc ça rejoint ce que tu dis, quoi.
Après, si tu veux, sur le protocole de l'échauffement russe, moi je trouvais que c'était trop stéréotypé, c'était un petit peu trop russe justement. Voilà. Aujourd'hui. J'en reprends la logique, tu vois. J'utilise beaucoup de mobilisation articulaire, par exemple, en mobiliser toutes les articulations en profondeur, gagner de la mobilité. Et ensuite, je vais faire un échauffement assez poussé dans lequel j'utilise soit des exercices de gainage, soit des exercices des fentes dans toutes les directions. Voilà, un travail qui finalement va se rapprocher un petit peu de l'échauffement russe, mais en utilisant des mouvements ou un protocole plus riche, voilà.
Ensuite, alors, toujours Dibi, alors, quel conseil donnerais-tu pour créer un kata?
Oula.
Là, ça va loin, là, je pense. Alors, comment je fais pour donner des coups de pied sautés, me retourner, tout ça artistiquement?
Déjà, il faut travailler sa technique de base, c'est fondamental. C'est-à-dire, si tu as pas de technique de base, tu peux pas créer de kata ou de performances qui sont crédibles auprès du public, quoi. Donc ce qui est important, voilà, c'est d'avoir de bonnes techniques de base, de n'utiliser que les techniques que tu maîtrises vraiment. L'erreur de beaucoup de compétiteurs dans les disciplines de kata ou de kata artistique, c'est d'utiliser des mouvements qu'ils ne maîtrisent pas. Et quand quand t'as du stress, notamment en compétition, c'est là que tu te plantes, c'est là que tu tombes, c'est là que tu commets des erreurs. Par contre, c'est beaucoup plus facile pour le corps, même en période de stress, de réaliser des mouvements dont il a l'habitude, qu'il a déjà répété des centaines ou des milliers de fois. Après, c'est une question qui demanderait
un gros article énorme.
Voilà. Et puis, sur Super Physique, en tout cas, je pense que c'est pas le. Enfin, que quelqu'un sur mon forum et me pose la question, j'en débattrai là-bas.
Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs de kata sur Super Physique.
Voilà, exactement. Bien d'accord.
Donc, dernière question de Dibi. Pourquoi la première semaine de musculation athlétique fait si mal que ça?
Pourquoi? Parce que c'est des mouvements qui sont nouveaux, parce que on utilise par exemple des contractions pliométriques à la barre fixe dont on n'a pas forcément l'habitude. Beaucoup de gens pratiquent des tractions, peu pratiquent des tractions sautées ou ce genre de travail là. Donc c'est normal que cette première semaine soit difficile. Elle demande une certaine adaptation du corps en profondeur, quoi.
Donc ensuite des questions qui me plaisent bien là, c'est Maxence qui pose ça, c'est alors est-ce que des douleurs articulaires à l'âge de 20 ans dues à la pratique sportive peuvent entraîner une arthrose précoce des articulations?
Maxence, t'es mal barré.
Voilà. Parce que si j'ai mal partout à 20 ans, est-ce que je suis foutu?
Bon, des douleurs. Alors déjà, Maxence, ce qu'il faut bien garder en tête, je le répète tout le temps, c'est pas pour faire chier les gens. C'est la douleur, c'est pas un ennemi, c'est juste un signal d'alarme pour nous dire que quelque chose ne va pas ou qu'une pratique ne nous convient pas ou est mal faite. Si tu as des douleurs partout, notamment au niveau des articulations, c'est que soit tu fais trop de muscu, soit tu pratiques mal tes mouvements, soit tu le fais en excès, soit déjà les mouvements que tu utilises ne te conviennent pas. Alors la première des choses, c'est déjà faire un certain travail d'introspection pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. La deuxième des choses, ça fait pas mal de temps maintenant que j'en parle, des fameux automassages, j'en fais la promotion un peu partout, qui veut bien l'entendre et l'écouter. Naturellement, on est tous enclins à demander des massages, c'est pas pour une mauvaise raison, c'est simplement parce que inconsciemment ou consciemment, on sait que ça fait du bien, ça détend la musculature. Donc, à 20 ans, si tu as déjà des douleurs un petit peu articulaires, c'est que forcément tu as des tensions musculaires résiduelles, des spasmes musculaires qui ne s'en vont pas après l'entraînement, un état de contraction léger qui se maintient et qui va légèrement fausser en fait le fonctionnement de ton articulation. Donc la première des choses, c'est travailler là-dessus, c'est-à-dire pratiquer les automassages. Alors tu peux le faire avec un rouleau de pilates, un simple ballon de football sur lequel tu vas rouler. Il y a pas mal de vidéos maintenant qui circulent là-dessus sur le net par rapport à ce que j'ai proposé. Une balle de tennis pour les hanches, un stick d'automassage que je propose sur ma boutique. Bref, il y a beaucoup d'outils pour se masser soi-même. Ça, c'est le plus important. Voilà. Mais c'est pas normal, non, Maxence, d'avoir des douleurs partout. Et c'est pas bon signe pour plus tard, oui.
Donc à n'importe quel âge, bien de préciser.
Oui, exactement.
Pas normal, normal partout, à n'importe quel âge.
Si tu veux, d'ailleurs, ce qui est intéressant, Rudy, si tu me permets, c'est que moi, pendant de nombreuses années de ma carrière sportive, je pensais en fait que les douleurs articulaires que j'avais partout, elles étaient dues à, justement, à l'entraînement, au fait que ce que je faisais, c'était du sport de haut niveau, donc c'était pas bon et c'était trop pour le corps. Mais bon, voilà, ça faisait partie du jeu. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur la méthode que je propose, un corps sans douleur et puis ce qui suit dans mes autres livres, ben, je me suis aperçu que mes douleurs, elles disparaissaient, que mes articulations, elles retrouvaient une deuxième jeunesse. Et pourtant, je m'entraîne toujours autant et j'ai des performances qui sont similaires à avant. Donc c'est juste... À 25 ans, j'avais des douleurs articulaires partout, et à 35 ans, ben, j'en ai quasiment plus. Donc voilà, j'espère que ça te donne envie d'aller plus loin dans cette démarche-là, massage, etc.
Donc on n'est jamais condamné à avoir mal. Même si on a mal, ça peut disparaître,
ouais,
ou au moins s'atténuer.
Voilà, ou au moins s'atténuer, on est clair là-dessus, Rudy. Après, il est évident qu'une personne qui va se mettre à travailler de manière différente ou à s'occuper de son corps en profondeur, s'il a fait 40 ans de muscu comme un bourrin, ben forcément qu'il va y avoir de l'arthrose et des problématiques. Et ça, aucun automassage, aucun complément alimentaire et aucune technique d'étirement vont pouvoir réparer l'articulation. En revanche, on va pouvoir atténuer les effets, l'inflammation localisée, etc.
Donc, pour continuer un peu sur les blessures, donc ça va intéresser aussi un autre membre de notre team qui a ça, en fait, peut-on guérir définitivement d'une pathologie à l'épaule, genre une tendinite bicipitale?
Ouais.
Et donc, ouais, en fait. Et d'un conflit aussi acromio-claviculaire.
Absolument. Absolument, absolument. Le seul problème, en fait, c'est encore une fois, est-ce qu'on est prêt à changer sa manière de s'entraîner, Rudy? C'est toujours la même problématique. Si on a une tendinite au biceps, si on a un conflit acromio-claviculaire, c'est qu'à un moment donné, on a déséquilibré le corps, et le corps, en fait, il ne fait que s'exprimer via une inflammation, via une douleur articulaire. Donc, encore une fois, il faut faire ce travail de recherche. où est-ce que j'ai commis une erreur, qu'est-ce qui était déséquilibré dans mon programme d'entraînement, est-ce que j'ai pas suffisamment travaillé mes fixateurs d'omoplates, est-ce que je les ai trop travaillés au contraire, parce que on peut aussi trop travailler. Il y a des gens, dernièrement je me suis occupé d'une personne qui faisait pas mal de muscu et qui voulait absolument éviter les problèmes d'épaule, et donc elle faisait systématiquement un gros travail de renforcement de tous les fixateurs d'omoplates, de tous les stabilisateurs, etc. Et en fait, elle s'était coincée un nerf, c'est-à-dire elle avait tellement développé cette musculature spécifique, qu'elle avait un nerf qui était pincé, en fait.
Donc comment c'est parti, alors? Grâce à tout le petit travail autour de...
Ouais, tout ce petit travail autour, beaucoup d'automassage pour relâcher des muscles qui travaillaient trop. Diminuer le volume d'exercice qu'elle avait autour des épaules, etc. Mais concrètement, après, le problème des conflits acromioclaviculaires, des tendinites dans cette zone-là, il y a des grandes thérapeutiques à proposer. Et après, c'est du cas par cas, quoi. Il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, qui ont une épaule qui est plus haute que l'autre. Il y a des déséquilibres plus ou moins structurels profonds. Donc il faut s'occuper. Donc c'est du cas par cas. Il faut regarder les gens un à un et leur proposer des techniques qui leur sont adaptées. Après dernièrement il y avait quelqu'un qui avait posté dans la rubrique blessures, je crois, un des articles que j'ai écrit pour Le Monde du Muscle dernièrement sur justement les problèmes d'épaule. Et je crois que la suite c'est ce mois-ci, il me semble. Donc s'il veut le scanner et le foutre sur son pour que les gens aient la suite. Là, je propose différentes batteries d'exercices. Dans la première partie, qui est encore, je pense, possible de voir dans la rubrique blessures du site, c'est mobiliser l'articulation, c'est-à-dire lui permettre de retrouver un fonctionnement normal. Même quand on a un peu d'instabilité autour de l'articulation, cette instabilité, elle est présente parce qu'il y a un déséquilibre musculaire autour de l'articulation. Donc le but, c'est de la mobiliser dans tous les sens, justement pour qu'elle retrouve une certaine mobilité, toujours en respectant la règle de la non-douleur, et ensuite refixer le tout, une fois que l'articulation repose à peu près normalement, lui redonner une certaine stabilité, quoi. Donc voilà, j'ai proposé dans Le Monde du Muscle un protocole de mobilisation qui est à peu près valable pour tout le monde, qui est toujours basé sur le problème que les gens passent trop de temps assis et donc ont des pectoraux, petits pectoraux qui sont trop courts, grande dorsale qui est généralement hyper chez les pratiquants de muscu et chez les sédentaires encore plus parce qu'ils ne l'étirent jamais, etc. Et puis des muscles autour de la ceinture scapulaire et humérale qui sont trop faibles, pas assez renforcés ou pas renforcés de la... Donc voilà, j'ai proposé un protocole, mais oui, c'est possible de guérir de ça. D'ailleurs, si ça peut l'encourager, moi, il y a 3 ans, j'avais eu un conflit acromioclaviculaire et j'en ai plus de traces aujourd'hui. Donc, voilà.
Bon, je pense que ça répond bien à la question et ça va redonner de l'espoir un peu à pas mal de monde qui ont cette tendinite. Donc, il y a...
Attends, Rudy, excuse-moi, juste pour conclure. Quand il y a tendinite, il y a excès. Tu vois, c'est simple, hein, à se rappeler. Si j'ai une tendinite, c'est que je suis en excès quelque part. Donc, excès de muscu, excès du même mouvement, voilà. Le tendon n'a pas le temps de récupérer par rapport à la prise de force ou de masse musculaire du muscle. Et résultat, soit la gaine, soit l'insertion se met à s'enflammer. Donc, voilà. S'il y a une tendinite, il y a un excès. Donc, quand il y a des excès, il faut diminuer, il faut faire un régime. Régime de curl, régime de... voilà, faut diminuer en fait, diminuer ce qui a pu provoquer la pathologie, c'est simple. Hein.
Et est-ce qu'on la supprime ou pas?
Alors, j'avais regardé le topic là-dessus, moi perso, je suis pas pour supprimer les exercices quand on a des tendinites, parce que justement, ce qui se passe, c'est que le tendon met toujours plus de temps à se régénérer. Quand tu stoppes la fixation, ou quand tu stoppes l'entraînement, ben il y a rapidement un désentraînement, c'est-à-dire ton muscle perd de la force, perd de la mobilité, etc. Mais du coup, le tendon se régénère, ça c'est pas le problème. Par contre, dès que tu vas reprendre, tu vas avoir exactement le même problème, c'est-à-dire que le muscle prend plus rapidement de la force que le tendon, va se remettre à souffrir. Quand les gens souffrent, j'aime bien leur proposer un entretien, donc toujours en deçà de la douleur. On peut continuer à faire des curls, mais les travailler soit sans qu'ils provoquent de douleur, soit avec des charges qui soient beaucoup moins importantes, mais toujours maintenir en fait un travail localisé, parce qu'en plus ce travail localisé va favoriser un afflux sanguin, donc un apport de nutriments, etc. Donc du coup limiter aussi le processus inflammatoire.
Très bien. Donc alors, quelles sont les autres questions? Alors, on nous demande quelques mots sur ton expérience de préparateur physique aux États-Unis.
Ouais.
Donc ça veut dire un peu comment c'était, etc.
C'était très bien puisque j'interviens régulièrement encore pour des athlètes, pour des sportifs qui ont. Aujourd'hui, je suis plus appelé comme consultant externe, c'est-à-dire ma spécialité, c'est vraiment devenu m'occuper de gens qui ont des problématiques très spécifiques, par exemple un conflit alimentaire, etc. Et essayer de leur trouver des solutions qui sont pas forcément, qui peuvent pas rentrer dans un cadre normal. Parce que dans un cadre normal, le kiné d'une équipe de foot américain ou de baseball, il n'a pas le temps de s'occuper de ça, parce qu'il y a 20 autres joueurs dont il faut gérer les petits bobos. Donc les Américains, et notamment les équipes pro, font de plus en plus appel à des mecs comme moi, qui vont être des freelances, qui vont intervenir uniquement pour un sportif, uniquement pour un athlète, et ce qui va permettre en fait d'avoir un travail qui va être très... très focalisé, c'est vraiment du one-to-one avec l'individu, et donc moi je préfère, parce que du coup tu peux faire un travail beaucoup plus qualitatif. Après, pour ceux que ça intéresse, c'est un milieu qui est très difficile à pénétrer, forcément parce qu'il y a peu de place, et forcément parce que quand tu travailles avec des gens qui valent beaucoup d'argent, il y a d'autres personnes qui ont investi beaucoup d'argent sur eux, et donc quand ils font appel à toi, faut pas que tu te plantes. Donc on fait appel à toi, certaines réputations. Donc voilà, ça prend du temps de développer un réseau, de développer des contacts. Et voilà, donc je le dis pour éviter de recevoir 200 mails de préparateurs physiques qui me demandent des contacts et des adresses aux États-Unis. Je ne donnerai pas mes personne. Ça a été suffisamment dur pour moi de me les créer, donc voilà, chacun fait son chemin. Rigole pas Rudy, parce que j'en ai souvent des demandes de ce style. Hein.
On te demande des contacts pour... des jeunes préparateurs physiques qui demandent des contacts pour se lancer.
À une époque où j'étais très médiatisé pour le karaté, en fait, chaque semaine je recevais des mails de gens qui me disaient... si je pouvais les faire passer à la télé, en fait, comme si j'étais un producteur milliardaire, aussi puissant que Drucker en France, et que j'avais vie ou de mort sur les passages télé des futures stars du sport français. Donc, oui, ça m'est arrivé dans le passé, donc voilà, je prédis aujourd'hui.
Justement, là, t'es passé à la télé, là, j'ai vu ça sur... Quelle chaîne, je sais plus, France 2 ?
Ouais, c'était sur France 2, l'émission de Stéphane Bern. Voilà, c'était une question bateau, comment peut-on éliminer les poignées d'amour ? Voilà, c'était le public, c'était à visée masculine. Donc, y a quelques personnes qui ont réagi là-dessus en disant que à la fois le passage télé était sympa, mais que c'était dommage que les mêmes mythes soient toujours perpétués, à savoir qu'il faut courir 45 minutes à une heure pour perdre de la graisse et qu'il n'y a que cette approche-là, etc. Ce qu'il faut savoir, et j'avais répondu justement sur ce topic sur Superphysique, c'est que bien souvent les médias, ils ont déjà leur plan en tête, et quand ils te font venir, ils ne veulent en fait que tu sois qu'une caution de ce qu'ils ont à dire et du message qu'ils veulent faire passer. Donc bien souvent, ben soit ton message il est tronqué, il est édulcoré, voire carrément supprimé. Soit ben tu tombes, voilà, t'es obligé de jouer le jeu et puis de dire ce que les médias veulent bien te faire dire. Alors là, j'ai eu de la chance, j'ai pu proposer des exercices différents de ce
qu'on m'a dit. Ouais, t'as pu mettre des exercices de tes livres, en fait, j'ai vu ça.
Exactement, j'ai pu proposer une approche différente de ce qu'on m'avait demandé. On m'avait demandé de montrer des crunchs, voilà. Donc moi, j'avais dit, pour faire des crunchs, vous n'avez pas besoin de moi. Et puis en plus, j'y crois pas vraiment, donc voilà. Donc j'ai pu proposer d'autres formes d'exercices. Après, bon, c'est vrai que la teneur du message n'était pas tout à fait celle que je voulais faire passer. Mais c'est comme ça.
Mais c'était sympathique, je trouvais, de voir des exercices qu'on voyait dans tes livres et pas des exercices habituels qu'on voit un peu partout.
Voilà, après, tu sais, je crois qu'aujourd'hui, notamment avec les médias, il faut que le public il apprenne à faire la part des choses. Parce que les médias sont devenus les rois de la manipulation. Donc je pense que c'est intéressant de garder toujours un œil critique sur ce que tu entends, etc. Voilà. Il y a toujours des choses intéressantes à prendre ou à voir. Après, il n'y a pas, c'est pas la vérité absolue, quoi. C'est tout.
Donc là, on a une question de Julien qui a Impaled.
Ouais.
Alors, concernant le cardio.
Ouais.
Courir avec un cardio-fréquence-mètre est-il utile ou futile?
Alors, c'est une réponse en deux temps. Au début, je trouve que c'est utile parce que justement, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de ton corps, mieux gérer tes efforts, donc respecter une certaine progressivité qui est vachement importante, notamment en course à pied pour éviter les blessures, pour éviter un excès de fatigue, etc. Après, je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années de pratique, c'est plus vraiment important parce que on reste attaché et rivé sur son cardio et voilà et parfois ben on part pour une séance et on a l'impression qu'on n'a pas du tout d'énergie et on découvre ben qu'on peut courir pendant une heure sans aucun problème et des fois on est plein d'énergie et puis au bout de 15 minutes on a les mollets durs comme des poteaux, on peut plus avancer et pourtant notre cardio il nous dit que tout va bien. Donc, encore une fois, l'exemple que une physiologie observée et maîtrisée n'explique pas tout. Donc voilà, à part lorsque tu pars un marathon ou quelque chose comme ça, où là quand je travaille avec des gens qui font vraiment de la course et qui visent des performances, j'essaie de leur faire travailler avec un cardio sur certaines séances. Pour la majorité des gens qui pratiquent la course à pied pour le bien-être, à moins qu'ils soient dans leur 6 mois de pratique, ensuite je leur dis que c'est pas forcément vital et qu'ils écoutent leurs sensations, quoi. Voilà.
Donc en même temps, Julien demande si attends, où est le truc? Alors, il nous demande si les séances pures de course à pied sont nécessaires ou nuisibles à la prise de muscles.
Ah, alors là...
C'est une bonne question, alors.
Là, il nous lance dans le vieux débat, vieux de 25 ou 30 ans, là.
Au moins.
au moins, ouais. Que te répondre, Julien? C'est toujours pareil, tout dépend le volume de course à pied que tu pratiques, le type de travail en course à pied que tu pratiques, etc. Moi, j'aurais tendance à te dire, ça dépend en fait de ton métabolisme de base. Si t'as un métabolisme déjà assez rapide, je déconseillerais de faire trop de courses à pied, à la fois en volume, c'est-à-dire pas mal de séances hebdomadaires, et en temps, c'est-à-dire pas trop courir longtemps. Pour la bonne et simple raison que si ton métabolisme est trop rapide, eh ben la course à pied va brûler énormément de calories dont tu aurais dû avoir besoin pour construire du muscle. Donc je déconseille ça aux gens qui par exemple ont déjà du mal à prendre de la masse musculaire. Par contre, tu as des gens qui prennent facilement de la masse voire même du gras, auquel cas je leur conseille oui de courir je sais pas, de deux fois une demi-heure, une demi-heure hebdomadaire, ou éventuellement une séance de running à une intensité faible, fractionnée par exemple, pour activer le métabolisme et garder une certaine distance. Encore une fois, c'est toujours compliqué parce que chaque individu est différent. Toi, Rudy, tu coaches des gens.
C'est vrai que donner un conseil général est très compliqué en fait.
C'est pas possible. C'est pas possible parce que ça dépend de la profession que tu as. Si tu fais maçon, que t'as un métabolisme rapide, que tu veux construire du muscle et que tu me dis je cours trois fois par semaine, je te dis non et arrête tout de suite. Il y a un problème. Par contre, si tu fais un travail de bureau, que tu dors une heure entre midi et deux, que tu manges correctement et que tu as un métabolisme moyen, ben, je te dis oui, tu peux courir en plus de la muscu et tu prendras quand même de la masse si tu t'entraînes correctement. Il y a tellement de paramètres dans son jeu que si tu peux faire des conseils comme ça à l'emporte-pièce, ça n'est que donner des réponses trop généralistes. Et le corps, c'est pas quelque chose qui est généraliste. Le corps, c'est une mécanique qui est très pointue, très précise et qui est encore plus précise d'un individu à l'autre, quoi.
Donc, pour continuer un peu là-dessus, donc moi, j'ai une question qui rejoint un peu. C'est est-ce que tu penses que la pratique du cardio est nécessaire?
Alors, tout dépend de ce qu'on appelle cardio. Si c'est uniquement du cardio sur des machines, c'est-à-dire maintenir son cœur à une certaine intensité, je ne crois pas que ça soit nécessaire. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un bon fonctionnement cardiovasculaire. Donc ça, tu peux l'avoir en faisant un certain type de séance, notamment en musculation. Par exemple, je pense à des séances de circuit training. Je pense à des séances, par exemple, quand je fais des séances de musculation athlétique, une séance qui s'appelle la densité croissante. Je peux t'acheter. Pas besoin de faire de cardio à côté, hein, parce que ton cœur il bat à 160-170 pulses pendant 15 minutes, tu prends 5 minutes de récup et tu recommences comme ça. Donc t'es gorgé de sang, t'es congestionné à mort, ton cœur il pompe au maximum et t'es limite de l'évanouissement. Donc là t'as pas besoin de faire de cardio à côté. Si tu fais ça déjà deux ou trois fois par semaine, rapidement tu deviens sec comme une arbalète, quoi.
Belle comparaison.
Donc encore une fois, voilà, tu vois, moi j'utilise beaucoup le travail avec des grosses cordes qu'on peut voir dans une de mes vidéos cardio, tu vois, parce que j'aime pas tout le temps aller courir, ça me fait chier de rester sur une machine elliptique ou un vélo stationnaire, donc moi, j'ai toujours aimé, de toutes les manières, être en plein air. Donc, s'il y avait des salles de muscu comme à Venice Beach, pour faire des poises et haltères, peut-être que je ferais plus de poises et haltères. Tu vois. Donc, le cardio, ça m'aide aussi à rester en extérieur, à voir un petit peu de la nature. Et puis, voilà, faire autre chose qu'être enfermé dans une salle à pousser des grognements contre une barre ou des élastiques, quoi.
Donc maintenant il y a Abilio, alors qui demande aussi, ça me plaît bien ces questions. Donc vous savez que les sports de combat, il y a pas mal d'idées reçues avec la musculation.
Oui.
Donc Abilio te demande de clarifier ce que peut apporter la musculation ou ce qu'elle ne peut pas apporter au sport de combat.
Pour moi elle peut apporter du positif. Moi je suis un... Sans la musculation, j'aurais pas pu réaliser ce que j'ai réalisé dans ma carrière sportive. Donc, je peux pas aller dans l'autre sens de reçu, c'est-à-dire dire que ça sert à rien. Voilà, je veux dire travailler la musculation d'une manière cohérente. Hein, je parle pas, par exemple, de faire une approche de type bodybuilding pour préparer un combat de boxe. Là, il y a une erreur de calcul. Par contre, intégrer des méthodes modernes de musculation, par exemple ce qu'on appelle la méthode bulgare, c'est-à-dire un travail lourd suivi immédiatement d'un travail léger ou d'un travail spécifique au sac, par exemple, c'est ce qu'il y a de mieux pour prendre de la force et de l'explosivité. Musculation, encore une fois, on peut travailler sous forme de circuit training pour préparer un athlète de manière spécifique. On peut par exemple faire un mouvement de force, enchaîner avec un mouvement au sac, reprendre un mouvement de force, enchaîner avec un travail de sparring, enchaîner avec un mouvement de force, et ainsi de suite pendant 2 ou 3 minutes, le temps d'un round. Voilà, et ça c'est une approche qui permet de travailler l'endurance de force, l'endurance de puissance, l'endurance d'explosivité, qui va être extrêmement bénéfique pour un pratiquant de sport de combat. D'ailleurs aujourd'hui par exemple, de MMA ne travaillent que de cette manière-là, quoi. Et pour moi c'est devenu les athlètes hors normes, quoi. Hein. En tout cas, sont capables de te faire des séances que peu de rugbyman pourraient supporter, par exemple.
Donc Abilio pose encore une question, à mon avis, un peu trop générale. Donc c'est comment intégrer la musculation à l'entraînement des sports de combat?
Oula, oui, ben...
Là, je pense que c'est pas trop répondable, si ça existe ce mot.
Ben oui, il y a trop répondable, je sais pas si le mot existe. non, mais c'est une question trop généraliste. Là encore, ça va dépendre du type de sport de combat que tu pratiques, du niveau dans lequel tu es, à savoir si en compétition tu fais que 3 rounds de 3 minutes ou si tu prépares un championnat du monde de boxe où tu vas faire 12 rounds de 2 minutes. Enfin bref, il y a tellement de paramètres qui vont rentrer en jeu et qui vont du coup déterminer l'orientation de ta préparation physique et le choix des méthodes de musculation que c'est juste impossible de te donner des exemples là comme ça dans un podcast.
Non, attends, alors... Ah, si, il y a une petite question pour finir, je l'ai gardée pour la fin.
Ouais.
Alors, il y a... Je sais pas comment ça dit, GUT, qui demande, est-ce que tu connais ta détente?
Est-ce que je connais ma détente? Aujourd'hui, j'ai une détente sèche de 68 cm, mesurée en counter movement jump, c'est-à-dire, je suis debout, je fais une rapide flexion et je saute le plus haut possible. Donc voilà, et à ma grande époque, à l'époque où je faisais énormément de pliométrie pour développer ma détente, je suis monté à 77 cm de détente sèche, voilà.
Donc voilà, je pense que c'était la dernière question. Alors est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Christophe?
Déjà moi je suis toujours content de voir l'essor que prend Superphysique. Je trouve que c'est un bon... Je trouve que c'est un bon site. Je pense que malgré parfois les critiques, etc., vous faites un super travail. Toi, Fabrice, et puis toute l'équipe derrière toi pour la promotion de la musculation. Donc moi, la première fois qu'on s'était rencontrés, je vous avais dit que je trouvais génial votre initiative et que à mon petit niveau, j'essaierais de vous aider ou de vous apporter ma pierre angulaire, et ben je continue à vous dire bravo pour votre passion.
Ah, merci à toi aussi de participer, puisque maintenant, comme l'ont vu les internautes, tu écris un article par mois sur le site.
Ouais.
Et donc on va essayer de faire au moins un podcast tous les mois ou tous les mois et demi en même temps, je pense.
C'est super, tu verras en fonction de... Du retour, tu sais, moi je suis quelqu'un de... Enfin, j'essaie de rester le modeste, donc si les gens ils ont envie que je réponde à des questions, j'y réponds. Si je fais chier les gens, eh ben je reste dans mon coin et je fais mes trucs tout seul.
Alors, on va dire que dès que ça atteint les 3500 vues, on s'en refait, hein. Je pense que
d'accord.
Je pense que c'est un bon truc.
Allez, il faut cliquer, hein. Cliquez les gens, hein. Cliquez pour
et télécharger.
Non mais voilà, en gros, pour moi c'est vraiment le mot de la fin. Moi j'aime les gens passionnés par ce qu'ils font et clairement sur le travail que vous faites, c'est un boulot de passionné. Il faut gagner sa vie donc et vous arrivez à le faire de manière très correcte sans prendre les gens pour des cons et voilà, je trouve que il faut le saluer et que c'est super, hein, c'est super comme ça, voilà.
Bon bah merci à toi Christophe.
Eh ben, merci à toi, Rudy, de m'avoir encore laissé les portes ouvertes du site l'espace une petite heure.
Bon, bah, bonne lecture à tous de ce podcast.
À bientôt. Ciao, les gens.
Salut.